En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le 23 avril 2007, le docteur vétérinaire Laurent Parodi, spécialiste aussi de microbiologie et d'immunologie, faisait une communication devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques dans le cadre de son thème annuel de réflexion pour l'année 2007, santé, médecine et environnement sous la présidence de Lucien Israël. Elle fut consacrée au thème « L'éternel retour des épidémies ». Retrouvons-le en séance.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier de l'Institut, Mesdames, Messieurs les académiciens, permettez-moi tout d'abord de vous dire combien je suis sensible à l'honneur que vous voulez bien me faire en m'ayant invité à prononcer cette conférence devant votre compagnie. Je vous en remercie très vivement. Le thème que vous avez bien voulu me demander de traiter et que j'ai un petit peu modifié sans changer le fond, sera l'éternel retour des épidémies. Dans le prologue à son destin des maladies infectieuses, publié en 1933, Charles Nicolle s'interrogeait de la manière suivante. Les maladies infectieuses que nous observons ont-elles toujours existé? En est-il parmi elles qui soient apparues au cours de l'histoire? Peut-on supposer qu'il en paraîtra de nouvelles. Force est de reconnaître que l'actualité des dernières décennies, régulièrement marquée par l'apparition et l'extension de maladies épidémiques à diffusion souvent brutale, a apporté une réponse positive à ces questions prémonitoires, notamment à la dernière. Désormais, nous nous sentons en permanence sous la menace d'un tel événement, aussi inattendu que redoutable. Des maladies transmissibles jusque-là inconnues, comme le sida, comme le SRAS, comme les fièvres hémorragiques, ou encore cantonnées à une région définie, comme le chikungunya, comme la fièvre à virus West Nile, se sont largement étendues, frappant souvent plusieurs continents sous forme de pandémie. On parle, à leur sujet, de maladies émergentes. Par ailleurs, des affections comme la tuberculose, que l'on croyait disparue ou maîtrisée, au moins dans nos pays, à niveau sanitaire satisfaisant, réapparaissent et s'étendent. On les considère comme des maladies réémergentes. Alors que dans les années 60, le large usage des antibiotiques et la diffusion de vastes campagnes de vaccination, je pense en particulier à la poliomyélite, à la variole, laisser raisonnablement prévoir que la guerre contre les microbes était en voie d'être gagnée, nombre de maladies infectieuses et parasitaires poursuivent leur sinistre carrière. Chaque année, elles sont à l'origine de 15 millions de décès, notamment dans les pays en développement, dans lesquels sévissent 90% de ces maladies infectieuses. Quelles sont les raisons de cette situation ? Pourquoi l'humanité est-elle encore et toujours à la merci de nouvelles épidémies? Sommes-nous en mesure d'émettre raisonnablement des prévisions sur l'émergence attendue de nouvelles pandémies? Quels outils, enfin, l'épidémiologie et la médecine préventive nous offrent-elles dans ce combat en vue de les contrôler et pourrait-on raisonnablement améliorer ces moyens? Telles sont les questions qui seront abordées au cours de cet exposé. J'ajouterai que le constat renouvelé de cet éternel retour des maladies épidémiques n'est pas propre à la médecine de l'homme. Une situation identique existe en médecine vétérinaire, les deux dynamiques, nous le verrons, étant d'ailleurs souvent intriquées. Épidémie et pandémie ne sont pas de nouveaux avatars. L'humanité a connu depuis l'Antiquité de nombreuses calamités de cette nature. L'histoire de la Grèce antique est riche de la relation de peste au sens ancien et très général des calamités épidémiques. Pendant la 9e guerre de Troie, le camp des Achéens fut frappé, dit-on, par une peste décimant aussi bien les guerriers que les chiens et les mulets. S'agissait-il d'une de ces épidémies modernes, un virus de West Nile ou un virus de la vallée du Rift? Il est évidemment impossible de répondre à cette question. On est mieux informé, par contre, sur la grande peste d'Athènes qui a éclaté au cours de l'été 430 avant Jésus-Christ et qui a décimé le tiers de la population athénienne. Plus près de nous, la variole est identifiable en Europe occidentale dès le 5e siècle. Il est bien connu que la maladie a suivi les conquistadors dans leur colonisation du Nouveau Monde, prenant une part certainement majeure à l'anéantissement des peuples amérindiens. On évalue à peu près à 3 millions le nombre des Aztèques qui ont été décimés en 2 ans après l'arrivée au Mexique d'Hernán Cortés en 1520. Les 16e et 17e siècles ont été marqués par l'éclosion d'épidémies de fièvre jaune, tant en Afrique de l'Ouest qu'au Mexique. L'épidémiologie moderne attribue ici encore aux Espagnols le transfert du virus amarille. Depuis son berceau africain, où son réservoir est constitué par plusieurs espèces de singes, jusqu'aux Amériques, sans doute par le transfert du moustique Aedes aegypti, passager clandestin possible des caravelles. La traite des Noirs n'a fait qu'entretenir ce transfert. À côté de ces grandes maladies virales, nombre d'épidémies bactériennes ont été rapportées. La lèpre, solidement implantée en Europe occidentale depuis le haut Moyen-Âge, est sans doute importée de son berceau indien par les invasions sarrasines. La peste, avec les grandes pandémies qui sévirent du 6e au 8e siècle et firent 25 millions de victimes en Europe entre 1348 et 1352. Le typhus, dont Thucydide décrit une foudroyante épidémie en Attique vers 430-425 avant Jésus-Christ et qui provoqua d'effroyables hécatombes au sein des armées suivant le sillage des guerres. Moins spectaculaire, mais tout autant meurtrière, la tuberculose ou la syphilis font partie de l'histoire des contagions. Il me faut d'ailleurs noter que celles-ci, ces contagions, sévissent également dans le monde animal. Et rappeler, par exemple, que la peste bovine qui ravageait l'Europe à la suite des armées durant la guerre de 30 ans, provoquant une grande disette dans les campagnes, a certainement tout autant motivé la création des écoles vétérinaires françaises sous Louis XV que le souci de sauvegarder la santé de la prestigieuse et stratégique espèce chevaline. De tout temps donc, des maladies sont apparues. D'autres ont disparu. Ce qui est propre à notre époque, c'est l'accélération au cours des années 1950-1980 de l'émergence de nouvelles maladies épidémiques ou de la réémergence de maladies jusque-là peu connues ou peu meurtrières. Pourquoi ? Comment ? Sous l'influence de quels facteurs ces soudaines bouffées épidémiques se produisent-elles ? Et ce, en dépit des progrès indéniables de l'épidémiosurveillance, de la médecine préventive et de leur mondialisation, même si de grandes disparités, nous le verrons, existent encore entre les continents. Ce bref historique nous a conduit à évoquer l'intervention des animaux, réservoirs d'agents infectieux, parfois victimes associées de maladies humaines. Remarquons d'ailleurs que cette association épidémiologique entre les animaux et l'homme est bien antérieure aux temps historiques. Les paléoanthropologues attribuent au bouleversement sociologique de l'époque néolithique, il y a environ 9000 ans selon les régions du monde, et la promiscuité nouvelle entre l'homme et les premiers animaux domestiques, l'émergence d'une bonne douzaine de grandes maladies infectieuses humaines. C'est le cas de la tuberculose, de la rougeole, de la variole, de la coqueluche, des grippes, entre autres. Ces maladies transmissibles de l'animal à l'homme ont reçu le nom d'anthropozoonose ou encore plus simplement de zoonose. Leur liste est longue désormais, qu'il s'agisse de maladies infectieuses, on en recense une 15aine de zoonoses majeures ou de maladies parasitaires. On en connaît une 12aine également majeures. Plus près de nous, dans son rapport de décembre 2005, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'AESA, évaluait à près de 400 000 le nombre d'Européens ayant souffert d'une zoonose en 2004. Ce nombre est incontestablement plus élevé encore dans les pays en développement, du fait de conditions d'hygiène souvent défavorables et d'une promiscuité plus étroite. Il est donc désormais bien établi que la plupart des grandes crises épidémiques de ces dernières décennies sont nées de la transmission à l'homme d'agents infectieux d'origine animale. Le virus du syndrome d'immunodéficience acquise, le virus du sida, dérive du virus de l'immunodéficience du singe. Notons d'ailleurs que ce virus SIV simien n'est pas pathogène pour le singe. C'est ainsi que le HIV1 aurait pour origine le chimpanzé, le HIV2 un autre singe, le singe vert ou singe mangabé. L'origine également simienne des virus des hépatites, des nouveaux virus herpétiques de l'homme ou des maladies de Marburg ou un virus Ebola est également avérée. Pour tous ces exemples, il est aisé de concevoir que la transmission interspécifique ait pu se produire entre espèces dont la parenté génétique est bien établie. Rappelons que 98% du génome du chimpanzé est conservé chez l'homme. Cependant, l'émergence d'épidémies humaines à partir d'espèces animales phylogénétiquement plus éloignées d'espèces humaines a été également prouvée. C'est le cas, entre autres, de maladies du groupe des fièvres hémorragiques. Fièvre de Lassa, originaire de rongeurs. Fièvre de la vallée du Rift. Fièvre hémorragique de Crimée-Congo, dont le réservoir est constitué par des bovins et des ovins. Ce fut encore le cas très récemment dans une relation animale inattendue, avec l'émergence de l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS. Son origine a été attribuée à la civette. Il faut savoir, par ailleurs, que cette espèce est considérée comme comestible en Chine. La relation interspécifique apparaît encore plus distante lorsque l'agent causal est naturellement hébergé et multiplié par certaines espèces d'oiseaux, comme c'est le cas pour la maladie du Nil occidental ou West Nile. C'est encore aux oiseaux, notamment aquatiques, que sont attribuées les épidémies successives de grippe humaine, d'une brûlante actualité, mais qui, rappelons-le, occupent la scène depuis les années 60. La transmission de l'agent infectieux de l'animal à l'homme peut se faire directement, par contact avec des excréta ou des sécrétions. Par exemple, c'est le cas pour des rongeurs, pour la fièvre hémorragique de Lassa. Elle peut se faire également par consommation de la chair des animaux, ces viandes dites de brousse, qui sont des viandes de singe, consommées et dont on sait qu'elles peuvent être à l'origine de la transmission du virus Ebola. C'est également, je viens de le dire, la chair de la civette pour le SRAS. Très souvent, l'infection se transmet à la faveur de piqûres ou de morsures d'insectes hématophages, moustiques et tiques. On parle alors d'arbovirose pour des maladies à virus transmises par un arthropode. La transmission interspécifique soulève bien évidemment de nombreuses interrogations. La question clé est certainement celle des mécanismes permettant le passage à l'espèce humaine d'un agent infectieux inféodé jusque-là à une espèce animale. Le franchissement de ce qu'on appelle généralement la barrière d'espèce mérite que nous nous y arrêtions quelques instants. Sous le concept volontairement simplificateur de barrière d'espèce sont regroupés les obstacles naturels, connus ou inconnus, capables de s'opposer au franchissement des défenses naturelles d'une nouvelle espèce hôte. Au nombre de ces mécanismes de défense, on peut ranger l'accessibilité de l'agent pathogène au site récepteur de l'hôte, son intrusion au sein des cellules sensibles, sa multiplication, laquelle implique sa résistance aux mécanismes de défense innés ou acquis du nouvel hôte. On peut également envisager le rôle de la température corporelle. S'agissant d'un événement exceptionnel, voire aléatoire, son essence même a été naturellement recherchée dans une ou plusieurs modifications génétiques survenant chez l'agent infectieux. L'exemple le plus emblématique est fourni par la transmission à l'homme des virus influenza ou grippaux aviaires, tant par la régularité avec laquelle le franchissement de la barrière d'espèce se produit, que par la gravité, on le sait, que peuvent avoir ces conséquences. On sait en effet depuis longtemps que les grandes pandémies grippales résultent de la transmission à l'homme de souches de virus influenza de type A, lesquelles circulent normalement chez des oiseaux sauvages, aquatiques en général. Il faut souligner immédiatement que ces grandes pandémies, comme la grippe dite espagnole, qui fut responsable, rappelons-le, entre 1918 et 1920, de quelque 20 à 50 millions de décès. Les grippes asiatiques et de Hong Kong ne doivent pas être confondues avec les épidémies de grippe saisonnière qui, chaque année, entre septembre et mars, affectent nos populations de l'hémisphère nord. Deux mécanismes principaux semblent impliqués dans l'émergence de ces épidémies grippales. Tous deux sont de nature génétique. Ce sont des mutations ponctuelles, d'une part, un réassortiment génétique, d'autre part. Les mutations ponctuelles régulières commandent les variations antigéniques que nous connaissons à travers les épis de grippe saisonnière. Ce sont elles qui obligent à une adaptation régulière des vaccins. Le réassortiment génétique, lui, sans doute plus rare, est certainement plus redoutable. Il autorise l'émergence de nouvelles souches de virus, véritables hybrides, ou réassortants, comme on dit maintenant, porteurs à la fois de gènes d'une souche donnée et de gènes d'une autre souche. Dans quelles conditions ce réassortiment génétique peut-il se produire ? Il pourrait être l'aboutissement d'une co-infection d'une espèce donnée de mammifère par un virus aviaire et par un virus de mammifère. Le porc apparaît comme étant le candidat de choix pour cette co-infection. Doté dans les cellules de sa muqueuse trachéale de récepteurs à la fois spécifiques des virus d'influenza aviaire et des virus porcins ou humains, il est capable de co-héberger les deux souches virales. Celles-ci peuvent y échanger certains de leurs constituants à la faveur de leur réplication. Des souches nouvelles en résultent qui associent le haut pouvoir pathogène de la souche aviaire à la capacité d'infection à l'homme. J'ajoute qu'elles sont en outre dotées du pouvoir de transmission d'homme à homme. Les pandémies grippales asiatiques de 1957 et 1968 ont été provoquées, on le sait, par des réassortants de souches humaines et de souches aviaires. Il est admis aujourd'hui que l'homme possède aussi des récepteurs au virus humain, bien sûr, mais aussi aviaire, prédominant respectivement dans les étages supérieurs et inférieurs de son appareil respiratoire. Les virus influenza aviaire et humain pourraient ainsi s'adapter directement à l'homme sans l'intervention intermédiaire du porc. Fort heureusement, cette probabilité semble faible, les virus influenza aviaire hautement pathogènes étant difficilement transmissibles à l'homme. Comme l'ont démontré les épisodes de grippe de Hong Kong en 1997, où 18 cas humains ont été renoncés, 6 d'entre eux étant mortels, mais sans pour autant déclencher de pandémie. Le virus influenza aviaire H5N1, qui circule depuis 2005 entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, très contagieux et meurtrier pour les oiseaux aquatiques sauvages, ainsi que, dans certains cas, pour nos volailles, est capable de se transmettre de l'oiseau à l'homme. 166 décès ont été enregistrés à ce jour. Fort heureusement, il ne semble pas avoir généré de réassortants aviaires humains. Cette éventualité serait catastrophique. Les épidémiologistes ont calculé qu'il y aurait entre 50 et 80 millions de décès, ce qui correspond en gros à 1% de la population mondiale. Et 96% de ces victimes seraient probablement dans les pays du tiers-monde. On comprend que cette éventualité suscite, au plan international, les mesures de vigilance et les travaux de recherche que l'on sait. Il faut savoir que l'espèce humaine n'est pas la seule victime de ces brèches ouvertes dans la barrière d'espèces. C'est ce qu'a révélé, par exemple, l'émergence dans les années 70 d'une gastro-entérite hémorragique du chien, inconnu jusque-là, et dont l'agent responsable, le parvovirus canin 2, dérive par mutation du parvovirus de la panleucopénie du chat. C'est ce que nous avons constaté encore dans les années 80, avec l'apparition dans les populations de phoques de la mer du Nord et de dauphins de la Méditerranée, d'épizooties meurtrières à morbillivirus, proche du virus de la maladie de Carré, du chien, et probablement dérivé de ce dernier. Peut-on expliquer l'émergence ou la réémergence des maladies épidémiques ? Il s'agit, on le conçoit bien, d'une question centrale. Car connaître les facteurs qui commandent l'apparition d'une nouvelle épidémie, c'est imaginer des mesures capables de les contrôler. C'est prévenir l'émergence de la maladie. Il faut bien reconnaître que seuls certains de ces facteurs sont identifiés, les événements déclenchants étant le plus souvent multiples. Retenons néanmoins que, comme cela a été dit, presque toutes les nouvelles maladies humaines proviennent de réservoirs animaux. On évalue aujourd'hui que 75% des maladies émergentes sont zoonotiques. Il faut également considérer que c'est souvent l'association de facteurs anthropiques liés à l'homme et de facteurs environnementaux qui crée les conditions favorables à l'émergence d'une épidémie. L'accroissement continu de la population mondiale est le premier facteur humain. Il génère souvent plusieurs conditions favorisantes, comme la précarité, la surexploitation des terres arables, la déforestation, la mise en place de nouveaux dispositifs d'irrigation, une intensification des productions animales. Il engendre des mégapoles surpeuplées, des migrations massives, souvent lointaines de populations, une intensification des échanges commerciaux, parfois encore des conflits régionaux. Des comportements nouveaux, rapidement diffusés par les médias, peuvent aussi constituer des conditions favorables. D'une manière générale, la densification des populations humaines, et cela vaut aussi pour l'animal, pour la population animale, accroît la probabilité de la transmission des agents pathogènes. Elle peut aussi favoriser l'apparition de souches devenues potentiellement plus pathogènes à la faveur de l'installation de variants viraux à cycle court. Les élevages intensifs à haute densité et où l'uniformité de sexe, d'âge, de génétique est la règle, sont autant de milieux de culture favorables à l'expansion rapide d'agents pathogènes mieux adaptés et plus meurtriers. Quelques exemples illustreront ce propos. C'est en Chine qu'ont débuté les grandes pandémies grippales de 1957 et de 1968, et que s'est manifestée pour la première fois chez l'homme l'infection par le virus aviaire H5N1. Les fortes concentrations avicoles, la fréquentation de vastes marchés, et la promiscuité entre oiseaux domestiques et populations humaines ont probablement facilité l'éclosion de cas humains dont certains se sont avérés mortels. Sur les 166 cas humains mortels d'influenza à virus H5N1 que je rappelais tout à l'heure, au 6 février 2007, 63 ont été enregistrés en Indonésie, 42 au Vietnam, 17 en Thaïlande et 14 en Chine. La mise en eau de grands barrages, comme le barrage d'Assouan en Égypte, a permis la pullulation des moustiques et partant la réémergence de la fièvre de la vallée du Rift dans ce pays. On sait désormais que c'est à la faveur d'une modification du procédé de préparation des farines de viande et d'os destinées à l'alimentation du bétail et qui avait fait la preuve de leur innocuité jusque-là que s'est développée en Grande-Bretagne à partir de 1986 l'enzoocyte dans céphalopathie spongiforme des bovins. La mise sur le marché, de manière frauduleuse, de stocks de farine contaminée a assuré sa diffusion internationale. La transmissibilité à l'homme du prion pathogène, provoquant la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, a apporté un nouvel et triste exemple d'anthropozoonose créée par l'activité humaine. La déforestation accélérée en vue de permettre la mise en culture de nouvelles terres provoque un bouleversement de l'écosystème. C'est ainsi qu'est apparue la fièvre hémorragique du Venezuela en 1989, l'extension de nouvelles cultures ayant favorisé la pullulation des rongeurs infectés naturellement par le virus Guanarito. Alors que le facteur démographique pourrait par nature ne générer que des épidémies locales, la multiplication et l'ampleur des déplacements assurent la diffusion pandémique des agents émergents. L'épidémie de SRAS du printemps 2003 s'est soudainement transférée de son berceau chinois au Canada. L'éruption soudaine et meurtrière à New York de la fièvre de West Nile en août 1999 et de là à l'ensemble des États-Unis puis à toute l'Amérique du Nord et consécutive au transfert du virus depuis son berceau africain ou d'Europe méridionale par transfert de malades ou plus certainement transfert du moustique vecteur. On sait maintenant que la diffusion du virus influenza aviaire à Saint-Canin, de son réservoir extrême-oriental au continent africain et à l'Europe de l'Ouest, est plus probablement due à des mouvements commerciaux de volailles domestiques et de leurs produits carnés qu'aux migrations d'oiseaux sauvages. Écotourisme en zone à risque, tourisme sexuel, pèlerinage de masse sont autant de mouvements de population propres à disperser de nouveaux agents. Certains comportements humains nouvellement apparus, par diffusion d'effets de mode et banalisation de certaines pratiques, concourent aussi à la diffusion d'agents épidémiques. Sans revenir longuement sur le rôle facilitant qu'a pu jouer le mouvement de libération sexuelle sur l'extension dramatique de l'infection à VIH ou sur la réémergence des maladies sexuellement transmissibles en général en Europe, il est intéressant de considérer que c'est sans doute l'élévation du niveau de vie en Chine dans les années 1980-1990 qui serait à l'origine du SRAS. La viande de civette, je l'ai dit, est très appréciée dans ce pays. Elle a connu une forte demande du fait de l'élévation du pouvoir d'achat. Dans les résultats, l'importation de nombreux animaux de toute l'Asie du Sud-Est, d'Indonésie, d'Inde, ainsi que le développement de véritables élevages. Ce brassage de populations animales et leur densification ont pu contribuer à favoriser la multiplication du virus. Enfin, au nombre des habitudes de vie potentiellement responsables de l'émergence inattendue des maladies infectieuses, il faut rappeler le récent et dommageable engouement pour les nouveaux animaux de compagnie susceptibles de véhiculer de nombreux agents pathogènes. Une preuve en a été fournie récemment par plusieurs dizaines de cas humains de variole du singe, le monkeypox, survenus aux États-Unis dans l'Illinois. Le virus a été propagé, on le sait maintenant, par des chiens de prairie, ce sont des rongeurs en réalité, de compagnie, eux-mêmes ayant été contaminés par cohabitation dans la même animalerie avec des rats de Gambie en provenance du Ghana et véhiculant le virus. S'il est aisé d'affirmer à la faveur de ces quelques exemples la réalité de facteurs humains d'émergence ou de réémergence d'épidémies nouvelles, les conditions liées aux modifications de notre environnement, souvent évoquées, sont plus difficiles à établir avec certitude. Certes, le réchauffement climatique, avec ses effets sur l'accroissement de l'aire d'extension d'insectes vecteurs, est souvent évoqué. Un exemple emprunté à la pathologie vétérinaire montre combien il est difficile d'établir le lien causal. Au mois d'août dernier, un foyer de fièvre catarrhale des ruminants apparaît à Maastricht, aux Pays-Bas. Il est suivi d'autres foyers en Allemagne, en Belgique, puis en France. La fièvre catarrhale, ou maladie dite de la langue bleue, était connue jusqu'alors comme une maladie exotique, atteignant l'Afrique ou, tout au plus, le bassin méditerranéen. Transmise par un moucheron piqueur, Culicoides inicola, son éruption plus au nord a naturellement été attribuée au réchauffement climatique favorable à l'extension de l'aire de peuplement de ce moucheron. Or, il s'est avéré que sous la latitude, Culicoides inicola n'était pas en cause. Une espèce voisine, indigène, Culicoides dewulfi, était le véritable vecteur. Ajoutons que le virus lui-même appartient à un sérotype différent du virus africain. Alors le mystère reste entier, mais le réchauffement ne semble pas être directement en cause. Même incertitude d'ailleurs avec l'épidémie de chikungunya de l'été 2006 dans l'océan Indien, particulièrement sévère à La Réunion. Bien plus que des conditions climatiques nouvelles qui auraient favorisé la population des moustiques vecteurs, il semble bien que cette épidémie soit une sanction de conditions d'hygiène précaires et de l'abandon de campagnes de démoustication. Ainsi, directement ou indirectement, les facteurs humains semblent impliqués dans l'émergence ou la réémergence d'épidémies. D'autant qu'ils pourraient l'être très directement, si comme cela a été parfois évoqué, des individus déclenchaient volontairement une épidémie par dissémination active d'un agent pathogène virulent. Chacun sait qu'il s'agirait là du bioterrorisme. Peut-on s'opposer à l'éternel retour des épidémies? Parce que ce sont souvent des maladies nouvelles et dont l'apparition est imprévisible, les mesures propres à les combattre ne peuvent être que de portée très générale. En outre, le caractère souvent planétaire de ces nouvelles épidémies implique que ces mesures soient appliquées simultanément à plusieurs régions du monde. Bien entendu, le recours aux procédés classiques de lutte contre les maladies transmissibles demeure potentiellement envisageable. Il s'agit de l'usage des anti-infectieux, antibiotiques et antiviraux lorsqu'ils existent, ainsi que du recours à la vaccination. Alors que ces armes ont démontré leur efficacité dans la lutte contre les maladies établies, c'est le cas des vaccins antivarioliques et antipoliomyélitiques que je rappelais tout à l'heure, elles sont souvent inadaptées à la lutte contre les nouvelles épidémies. En dépit des progrès considérables de la vaccinologie, les délais nécessaires à l'isolement d'un nouvel agent infectieux, à son identification, à la préparation de vaccins efficaces et à son évaluation ne sauraient être inférieurs à 6 mois. Et encore, lorsque cela est faisable. Rappelons à cet égard le cas du virus du sida contre lequel aucun vaccin n'existe encore plus de 25 ans après l'émergence de la maladie. Lorsque la menace d'une extension à l'homme d'agents infectieux animaux comme les virus influenza aviaires hautement pathogènes, la vaccination, en raison des contraintes qu'elle implique, ne s'applique que dans les pays dont le dispositif vétérinaire est déficient. Il s'agit alors, dans l'urgence, à l'aide d'un vaccin déjà connu, d'appliquer une vaccination systématique des animaux, luttant ainsi contre le virus à sa source avant qu'il n'ait largement diffusé. C'est ainsi que la Chine, le Vietnam, l'Indonésie, l'Égypte, le Nigeria ont lancé des campagnes de vaccination contre le virus H5N1, programme ambitieux qui consistait ou qui avait prévu de vacciner toutes les volailles domestiques du pays, mais qui, bien souvent, ont dû être abandonnées pour des raisons financières. La lutte contre les épidémies émergentes ou réémergentes procède donc d'abord de l'instauration d'un système de surveillance épidémiologique à l'échelle planétaire. La réémergence au cours des années 1990 de graves épidémies telles que le choléra en Amérique latine ou la fièvre hémorragique à virus Ebola en Afrique centrale a été à l'origine de la mise en place, en 2000, par l'Organisation mondiale de la santé, d'un réseau mondial de détection et de prise en charge des maladies infectieuses. Le système est connu sous le nom de Global Outbreak Alert and Response Network, le GOARN. Il s'étend aujourd'hui à 120 pays et s'appuie sur 2 volets opérationnels complémentaires, surveillance et réponse adaptée. La surveillance doit être bien évidemment nationale et internationale. Au plan national, elle dépend des services de santé locaux. En France, elle relève de l'Institut de veille sanitaire, lequel peut s'appuyer dans notre pays sur le réseau Sentinelle, constitué par des médecins généralistes bénévoles. Ce n'est évidemment pas le cas pour tous les pays. Devant certaines carences, l'OMS fait de plus en plus appel aux organisations non gouvernementales, les ONG. L'essentiel reste de déclencher, chaque fois que cela paraît nécessaire, une alerte nationale qui sera reprise éventuellement par le GOARN au plan international. Nous avons rappelé il y a quelques instants, 75% des maladies épidémiques émergentes de l'homme sont zoonotiques, d'origine animale. Ceci rend absolument indispensable une coopération permanente entre médecins et vétérinaires. Au plan international, la responsabilité de la surveillance épidémiologique vétérinaire revient à l'Organisation mondiale de la santé animale, l'ancien Office international des épizooties, fondé en 1924 à Paris par Gaston Ramon et dans lequel se trouve toujours son siège. L'OIE rassemble 167 pays, reposant sur les services vétérinaires nationaux. Elle a pour objectif l'épidémiosurveillance des maladies animales, l'établissement des normes internationales de diagnostic et des lignes directrices visant, entre autres, à prévenir l'importation d'agents pathogènes dangereux pour l'homme et les animaux. L'OIE assure sa mission en partenariat étroit avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Les deux organismes ont élaboré un programme commun, le cadre global pour le contrôle progressif des maladies animales transfrontalières. Au plan européen, un réseau de recherche sur les maladies animales transmissibles à l'homme, le MedVetNet, a été créé en juin 2004. Le constat de l'émergence d'une nouvelle épidémie étant établi, la réponse s'efforcera alors de circonscrire le foyer initial. Lorsque l'épidémie est née dans un effectif animal et qu'elle fait courir le risque d'une extension zoonotique, la décision peut être prise d'anéantir toutes les populations animales sensibles infectées, contaminées ou suspectes. C'est ainsi que des millions de volailles ont été abattues, notamment à Hong Kong, 1,5 million en 1997, au Vietnam, en Corée du Sud, mais plus près de nous, aux Pays-Bas. 30 millions de volailles ont été abattues et détruites en 2003, à la suite des épizooties d'influenza à virus H5N1. Des mesures de restriction, voire d'interdiction des déplacements de populations, humaines et animales, sont prises par l'établissement de zones de protection et de surveillance autour du foyer infectieux identifié. Au plan international, s'agissant encore d'animaux et de produits animaux, l'interdiction des importations en provenance des pays infectés peut être décrétée. Un dispositif étendu au plan mondial existe donc. Il a fait ses preuves avec l'épidémie de SRAS, par exemple. Force est de reconnaître qu'il souffre encore de points faibles, représentés par la situation existante dans certains pays en voie de développement. Les causes en sont à la fois l'insuffisance des structures sanitaires locales, médicales et vétérinaires, ainsi que la faiblesse des moyens d'action, tels que l'indigence des compensations financières qui devraient être accordées aux éleveurs réticents à permettre l'abattage de leur cheptel. Les conférences internationales s'efforcent de canaliser les fonds internationaux, notamment ceux accordés par la Banque mondiale, vers ces maillons faibles du dispositif. Car, et c'est une des leçons que l'on doit tirer des grandes crises sanitaires qui se sont récemment abattues sur la planète, parce que ces crises s'inscrivent désormais dans un contexte international, elles nécessitent une riposte internationale. Qu'un seul pays soit défaillant et l'ensemble du dispositif est en faillite. Seule une aide substantielle des pays les plus riches accordée aux pays pauvres est de nature à assurer l'efficacité du dispositif. Il s'agit là, on l'aura compris, d'un mouvement de solidarité bien ordonné. Ainsi, de tout temps, des maladies épidémiques sont apparues ou réapparues, alors que d'autres ont disparu. Ce qui est propre à notre époque, c'est tout à la fois leur répétition accélérée et leur capacité à s'étendre rapidement à l'échelle planétaire. Pour l'une et l'autre de ces nouvelles caractéristiques, l'homme occupe, on l'a vu, une responsabilité centrale. Ce sont bien souvent les activités humaines que l'on retrouve à la source de la réémergence renouvelée et de leur aptitude à la mondialisation. La conséquence de ce constat doit être une prise en charge de la lutte contre ces maladies solidaire et mondiale. Charles Nicolle, que nous citions en débutant cette conférence, écrivait aussi « La connaissance des maladies infectieuses enseigne aux hommes qu'ils sont frères et solidaires. Plus que jamais, en raison du risque planétaire, cette solidarité doit et devra encore davantage s'exercer en vue de maîtriser le risque collectif. » Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Vous venez d'entendre André-Laurent Parodi, docteur vétérinaire qui faisait une communication devant l'Académie des sciences morales et politiques, séance consacrée au thème « L'éternel retour des épidémies ».